Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est Côté Club, le quotidien musical de toute la scène française. Nous sommes en direct, bien confinés au studio 621 de la Maison de la Radio, masqués, distance respectée, mais le cœur y est, pour vous retrouver chaque soir de 22h à 23h et en podcast, évidemment. Ce soir, paradis et confetti pour nos deux invités, Voyou et Ben Mazuet. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Voyou, c'est un nouvel EP, des confettis dans le désordre. C'est un peu le cas avec des chansons célibataires, chantées en concert mais pas enregistrées, ou déjà parues mais pas intégrées dans un album. Bref, ça ressemble à une compilation mais avec une vraie dramaturgie. 7 titres distribués en 2 parties autour d'un interlude musical et ponctués à chaque fois d'une reprise. Ben Mazuet, lui, est au paradis. 4e album, écrit à La Réunion et pourtant il est question de rupture, de quarantaine, autoportrait d'un artiste qui écrit gonflé d'espoir ou triste comme un dimanche, c'est lui. Marion ?
De la sad music for sad people, c'est comme ça que se présentait le duo Kabadzi en 2014. Est-ce que c'est toujours le cas en 2020 ? La réponse est peut-être dans le titre de leur nouveau single, Mélanco, à découvrir vers 22h30.
À peu près, oui, c'est peut-être ça. Voilà, vous savez tout, maintenant on entend tout. Bienvenue au club.
Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
Nos invités sont Voyou et Ben Mazuet. Nouvel album pour l'un, nouvel EP pour l'autre. Vous êtes déjà rencontrés, oui, tout à l'heure dans la loge, mais avant, vous vous connaissiez ?
Ben me rappelait tout à l'heure qu'on s'était rencontrés ici, en fait, dans exactement ce studio-là.
Ah ouais ? Donc on refait la même émission ?
Bah non, parce qu'il y a d'autres personnes. Mais, oui, c'était Full Sentimental.
Avec beaucoup de monde.
Ouais.
C'est ça. Et puis on a le même bar de prédilection aussi, tu oublies de dire.
Oui, voilà. C'est vrai.
Dans quel arrondissement à Paris ?
À Ménilmontant.
Voilà. D'accord.
Donc ça nous est arrivé quelques fois de nous croiser dans cet établissement.
Ouais, c'est vrai. Et parfois aussi en concert, enfin une fois d'ailleurs en concert.
Ouais, c'est ça.
Où j'avais ouvert pour lui au Mans pour un festival, le Bebop Festival, je crois.
Exactement.
Mais ah oui, quand même. Donc il y a.
Ah oui, on s'est déjà croisé quelques fois.
Très bien. Nouvelle EP sortie en septembre pour vous Voyou. Donc ça veut dire que vous avez pu faire des concerts hein, avant le couvre-feu et avant le confinement. Aujourd'hui. Ça se passe comment pour défendre et faire entendre l'album ? Vous faites des posts sur Instagram, des concerts sur la toile ?
Alors des concerts sur la toile, pas trop, parce que j'ai pas trop l'habitude de faire ça, et que j'aime bien faire des concerts devant des vrais gens aussi. Mais en fait, j'ai préparé une tournée en solo, donc qui tournera quand elle pourra tourner.
Ouais.
J'ai pu la jouer pour l'instant 3 fois, donc j'ai fait tout un petit décor, un peu de théâtre, pour essayer de créer un truc assez proche avec les gens et un peu de proximité pour ces gens qui sont assis et masqués et qui sont en train de découvrir une nouvelle manière de voir des concerts.
Ah d'accord, donc vous serez seul en fait pour répondre justement à cette nouvelle configuration.
Ouais, bah c'est même pour répondre à ce qui se passe économiquement dans les salles de concert et pour mon tourneur aussi. En soi, on pouvait pas continuer à envoyer cette personne sur la route parce que sinon il y a forcément des gens qui allaient perdre de l'argent. Donc on a monté une nouvelle formule et on l'a joué 3 fois pour l'instant, ça s'est super bien passé. Et puis bah toutes les dates qu'il y avait après, ben pour l'instant elles sont reportées.
Et pour vous Ben Mazuet, donc 4e album sorti il y a 15 jours, là en plein confinement, la même question, s'il n'y a pas de scène, s'il n'y a pas de concert, s'il n'y a pas de festival, est-ce que vous pensez vous à des mesures alternatives ? Je vous pose cette question parce que samedi dernier, Rodolphe Berger a fait un concert depuis
en streaming payant depuis Sainte-Marie au Mans.
Et ça a bien marché, ouais, hein, il y avait combien de
plus de 400 personnes
plus,
paraît-il.
Plus de 400 personnes, plus que la salle qui aurait pu accueillir même le concert.
Bah c'est une bonne idée, on va lui prendre du coup. Ma tournée censée commencer en février, donc j'ai bon espoir peut-être que les salles puissent éventuellement réouvrir, parce qu'en plus c'est des salles assises, donc il y a peut-être des formules aménageables. J'ai encore cet espoir là. Pour l'instant je m'accroche à ça. Et Voyou, moi je l'avais vu tout seul jouer déjà, il s'en sort très bien tout seul. Il a cette machine là, je sais pas si tu vas l'utiliser aussi, une espèce de table incroyable là, qui permettait en tapant dessus d'allumer des lumières et tout, c'était extraordinaire.
Ouais, mais ça non, je l'ai. Bah en fait elle doit être dans une benne à ordures quelque part.
Ah bon, enfin,
parce qu'à la fin, ça déconnait. Hein. Forcément, je l'avais fabriqué tout seul, donc ça ne marchait plus trop. Mais bon, j'ai toujours plein d'instruments de musique avec moi. Et surtout, je retrouve ce plaisir de la communication directe avec le public. J'ai plus à m'occuper de gens qui sont avec moi sur scène en plus.
Ouais.
J'ai juste à me concentrer sur les gens qui sont devant moi et c'est assez chouette. Il y a un vrai dialogue ouvert et c'est cool.
Ben Mazuet et Voyou, tous les deux, vous êtes auteurs, compositeurs, interprètes, mais avec des parcours très différents. Et pourtant, un point commun entre les deux, le conservatoire.
Ah ouais.
Alors, très très court. Hein. Ça, j'avoue que c'est effectivement dans ma page Wikipédia. Je l'enlève pas parce que c'est assez prestigieux, ça me dérange pas.
Mais,
c'est
mais combien, ça durait un jour ou quoi?
Mythomane.
Ouais, c'était assez court. Et puis par ailleurs, je crois que j'ai redoublé vraiment énormément. Donc je m'en vante pas quand même non plus régulièrement, parce qu'il y a un petit côté imposture quand même dans cette histoire de conservatoire. Beaucoup plus que lui, qui pour le coup...
Bah, vous, ça a commencé très tôt.
Ouais. Moi, je me la raconte beaucoup du coup, Non, oui, moi ça a commencé tôt, mais aussi parce que mon père était... Enfin, il est directeur d'un conservatoire aujourd'hui d'ailleurs. C'est un peu son rêve pendant des années, et puis là, ça fait quelques années qu'il l'est. Et du coup, il voulait absolument que je passe par cette case conservatoire. Et
donc ça commençait par la trompette?
Ouais, très très jeune. Mais parce qu'il est trompettiste aussi, et du coup, très vite, il a vu que je m'intéressais à cet instrument, que je me baladais tout le temps dans la maison avec, donc il a essayé de m'apprendre par lui-même. Il a vu que ça marchait pas trop, et du coup, il m'a envoyé, enfin en tout cas que j'en faisais qu'à ma tête et que j'avais pas du tout envie de l'écouter là-dessus. Et puis voilà, il m'a envoyé au conservatoire pour recommencer ça avec d'autres gens. Quoi.
Ouais, formation classique. Vous, c'était le piano, bien mesuré.
Alors moi, c'était le piano, effectivement, avec pas mal d'échecs, jusqu'à ce que je tombe sur une prof qui, en fait, me faisait chanter, principalement, et m'accompagnait avec un piano. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à prendre du plaisir à jouer, c'était au moment où je me suis mis à chanter. En fait, moi, mon truc, vraiment, c'est chanter, je crois.
Vous, c'est arrivé beaucoup plus tard, hein, d'ailleurs, voyou, le chant.
Le chant, ouais. Ouais. Ouais, parce que parce que le chant, c'est pas du tout quelque chose que je cérébralisais. Quand j'écoutais de la musique plus jeune, j'avais vachement de mal à écouter les paroles des gens. Et j'écoutais beaucoup de musique instrumentale aussi, et beaucoup de choses aussi que je ne comprenais pas. Donc du coup, le chant était quelque chose qui servait d'instrument de musique, et qui était un instrument que j'avais pas spécialement appris, donc du coup je m'y intéressais un peu moins. Mais bon, ça vient au bout d'un moment.
Alors on va parler tout à l'heure de vos répertoires respectifs, vous chantez chacun le vôtre, mais parfois avec des apartés, des reprises, je vais vous faire écouter les originaux, et chacun reconnaîtra le sien. Ben Mazoué, ça c'est pour vous, donc.
Eh oui, c'est ça. Je cherchais une reprise. J'ai toujours été très impressionné par l'intro de ce morceau de Manuela Forever, qui est une intro vraiment sublime, quoi. Et après, il y a une interprétation qui est son interprétation. Et puis en fait, en me creusant dans le morceau, je me suis rendu compte que c'était un texte vraiment très beau.
Étienne Rodagil, un texte voilà. Invraisemblable.
Ouais. Exactement, qui parle de rupture. Alors moi,
c'est parti. Vous êtes un spécialiste.
Donc du coup, je suis parti, j'étais à La Réunion à l'époque, je suis parti enregistrer ce morceau dans une bergerie un matin au lever du soleil avec un réalisateur qui après réalisait tous les clips de l'album. C'était génial.
Ben voilà ce que ça donne.
Elle est si forte qu'elle se brise. Elle était fière, elle est soumise. Comme un amour qui lâche prise, qui craque mais ne plie pas. Où elle te ressemble quand elle tremble. Et dans ta voix, j'entends parfois un peu sa voix.
Donc la version Manuela Forever signée Ben Mazoué. Donc une autre reprise, bah celle-là ça va être facile, hein, ça va être pour vous.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver.
Voyou, Henri Salvador, Jardin d'hiver, un titre signé Benjamin Biolay et Karen Anne, qu'elle avait chanté d'ailleurs, je crois.
Je crois qu'elle avait chanté avant lui.
Ouais, tout à fait, ouais.
C'est marrant, c'est vraiment l'inverse de Ben, c'est que lui, il a repris de manière très acoustique un morceau très produit, et moi, j'ai repris un morceau très, très acoustique que j'ai produit. Mais cette chanson, elle a beaucoup tourné dans mon salon quand j'étais plus jeune. Et elle m'a toujours, je pense, comme énormément de personnes, hein, elle est assez bouleversante, cette chanson. Très simple, très belle. Des paroles magnifiques que je ne comprenais pas, mais qui me touchaient quand même émotionnellement beaucoup quand j'étais petit, sans savoir pourquoi.
Et alors, donc la version signée Voyou, voilà ce que ça donne.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière. Changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver.
Allez, tout de suite, on écoute une autre reprise. C'est votre nouveau single extrait de cet album Confetti dans le désordre. C'est Teenage Fantasy et je vous laisse le soin de présenter le morceau.
Alors, c'est une chanson d'une artiste anglaise qui s'appelle Georgia Smith, qui est une chanteuse de R&B que moi j'aime beaucoup et qui parle des... comment dire, des relations quand on est très jeune et qu'on ne sait pas encore trop ce que c'est l'amour et tout ce que ça amène.
Et qu'on projette sur l'autre des choses qui n'existent pas.
Exactement, et où on oublie aussi parfois de projeter sur des personnes chez qui on devrait peut-être projeter un petit peu plus.
Ça sent le vécu. Fantasy, la reprise est signée Voyou. C'est pas toujours facile de traduire et d'adapter un texte. Pour ce texte de George Smith, quelle était la difficulté, Voyou ?
Alors ma difficulté, ça a été les barrières que je me suis imposées en le faisant. Je voulais respecter exactement sa mélodie, au pied près, quoi, qui est exactement la même mélodie, et à la fois respecter exactement ce qu'elle raconte dans chaque phrase. Donc c'était très dur, c'était même plus dur que d'écrire une chanson finalement. De coller vraiment à tout ce qu'elle disait en respectant exactement tout son chemin mélodique. En plus, vu qu'elle fait du R&B, elle, c'est très très libre. Moi, c'est pas du tout ma manière de faire. D'ailleurs, ça m'a beaucoup appris de voir sa manière d'écrire qui est finalement beaucoup plus libre que la mienne. Et ça a été un petit calvaire. Et en même temps, je fais déjà ça un peu avec mes chansons, mais j'ai pas la contrainte de devoir traduire des textes.
Ouais, c'est vraiment une double contrainte. Mmh. Vous avez déjà fait cet exercice-là, Bed Mazué?
Oui, là récemment, je suis en train de travailler sur une musique de film et j'ai traduit I Will Survive.
Je survivrai.
Exactement, je vais survivre.
Vous l'avez traduit par Je vais survivre.
Oui.
Régine, c'était Je survivrai.
Elle l'a fait.
L'a fait. Il y a une version un peu disco. Le clip mérite. Enfin, le clip, le passage télé mérite attention.
D'accord. Hein. Je me pencherai sur le. la vidéo. Ouais, c'était. Moi, j'aime bien faire ça. Moi, je suis beaucoup plus. Je me sens beaucoup plus libre d'un peu tricher, d'un peu aller chercher à droite à gauche. Et puis, il y a une lecture quand on reçoit le texte en français, on est tout de suite ému par le fait de le comprendre. Et il y a quand même des textes qui sont sublimes dont on passe complètement à côté quand on n'est pas parfaitement anglophone. Hein.
Donc un nouvel EP pour vous, Voyou, Confetti dans le désordre, et en fait oui, il y a du désordre, hein, j'en parlais en ouverture, 7 titres qu'on a déjà entendus par-ci, par-là, qu'on a entendus en concert, en single, mais jamais intégrés dans un tout. D'abord un mot sur ce titre, Confetti dans le désordre, parce que cette phrase, on l'entend dans cette chanson.
Et les œuvres qu'il dévale se transforment en carnaval, celui de son enfance, au parapluie qui danse.
C'est quoi ce penchant pour la musique, on va dire, ambiance brésilienne?
Bah, je sais pas trop. Bon, c'est vrai que là, ça s'appelle Carnaval, en plus, ce morceau. Mais bizarrement, je parle des carnavals du Nord-Pas-de-Calais où il n'y a pas trop l'ambiance brésilienne.
Non, je sais, ouais.
Mais je sais pas, probablement le fait d'avoir eu beaucoup de musique sud-américaine chez moi quand j'étais petit, et aussi d'avoir beaucoup recherché cette musique-là après. Notamment chez des disquaires, quand j'ai commencé à découvrir qu'il y avait de la musique qui existait dans le monde entier, qui avait été imprimée sur des vinyles, et que plein de disquaires en avaient, je me suis mis à chercher plein de choses comme ça, et à découvrir par moi-même aussi ces styles-là, et je sais pas, je trouve qu'il y a une grande liberté dans la musique brésilienne d'à la fois faire des choses très orchestrées, mais parfois aussi très acoustique, d'utiliser beaucoup de vrais instruments de musique aussi. Après, c'est la musique brésilienne que moi j'écoute, c'est-à-dire qu'il y a des choses beaucoup plus modernes qui sont très éloignées de ça, mais en tout cas...
Vous écoutez qui ?
Bah, j'écoute Chico Buarque, Gilberto Gil...
D'accord, les grands classiques.
Les grands classiques, ouais.
D'accord.
Donc ça reste quand même des gens que beaucoup de gens ont écouté et tout ça, et en même temps, je comprends pourquoi autant de gens ont écouté ces gars-là, quoi.
Alors, tout à l'heure, je disais, donc, l'album, c'est un peu dans le désordre, les compétitions en désordre, mais en fait, il faut bien cadrer tout ça, et vous l'avez cadré. Vous avez choisi une construction très rigoureuse pour ce EP. 7 titres, presque un par jour, 3 titres, un interlude musical, 3 autres titres. Ça vous permet de raconter quoi? Et même sur le plan musical, entre la première, on va dire, et la deuxième partie?
En fait, moi, ça me permet de mettre un cadre dans un truc qui n'a absolument aucun cadre.
Aucun,
quoi.
Oui, bien sûr. Ouais.
Et après, ça a été vraiment plus à comment je le ressentais. C'est-à-dire que je savais que je voulais cette interlude au milieu, qui connecte un peu ces deux parties et qui en même temps les sépare complètement. Et du coup, de pouvoir me permettre de raconter un peu tout et n'importe quoi, mais de créer ce lien-là en ayant une petite respiration au milieu, ça permet aussi de pouvoir passer par plein d'ambiances très différentes. À la fois parce que j'avais envie de le faire et aussi parce que vu que les morceaux ont été enregistrés dans des studios différents, à des périodes différentes, à des moments où quand j'avais mes problèmes de voix, il y a des morceaux qui ont été enregistrés, d'autres bien avant ça, donc quand j'avais une voix encore différente de celle que j'ai récupérée après. Donc même au niveau de la voix, je pouvais pas vraiment faire le lien sur le EP. Donc je sais pas, j'ai essayé de construire ça un peu comme un puzzle avec des pièces rapportées comme ça.
Ben Magier, vous saviez qu'il avait eu des problèmes de voix assez conséquents?
J'ai eu vent, mais c'était pas, je suis pas hyper calé. Enfin, je sais. Y a
peut-être rappeler ce qui s'est passé. Alors,
j'ai eu un polype sur une corde vocale qui a duré pendant un an de tournée à peu près et qui a été augmenté par le fait de jouer de la trompette. Ça, c'était assez terrible.
Bien sûr, parce que ça muscle.
Ouais. Et puis aussi la voix. Et du coup, au plus j'avançais dans la tournée, au plus je me blessais parce que c'était de plus en plus compliqué de chanter. Et jusqu'au point où il y a eu un deuxième polype qui est apparu de l'autre côté. Et en fait, je passais ma journée à faune et je montais. Et 10 minutes avant de monter sur scène, j'essayais de me chauffer la voix, mais il y avait rien qui sortait. Je montais sur scène, je faisais le concert, il y avait absolument aucun problème.
Ça, c'est dingue. Ouais.
Et je redescendais de scène et j'étais à faune jusqu'au concert d'après. Donc c'était assez éprouvant psychologiquement de passer par ça. Et à la fois, j'avais vraiment. Il y a eu un truc aussi de. J'avais l'impression d'être un peu un survivant, quoi, de le faire. Et j'étais assez fier finalement de réussir à tenir ces 4 mois de tournée que ma prod disait qu'on pouvait pas annuler. Et aussi parce qu'il fallait que j'ai le temps de prévoir une opération et tout ça. Et après je me suis fait opérer, j'ai eu 2 semaines en silence total où je pouvais pas parler. Et après j'ai dû arrêter de chanter pendant 2 mois, 3 mois.
Vous avez eu peur de ne pas pouvoir recommencer?
Pas vraiment, non.
D'accord.
Honnêtement, c'est-à-dire que j'aimerais me plaindre et dire que j'avais très peur, mais c'était pas le cas. Et j'ai eu assez confiance au fait que c'était possible parce que j'étais bien entouré par des gens aussi.
Ça me fait penser parce que Ben Mazué, ouais. Oui, non, parce que tu t'es aussi cassé la dent. J'ai vu récemment sur un micro.
Sur un micro.
Oui, sur un micro.
Ah bon, d'accord.
Il y a la vidéo sur Instagram. On te voit arriver faire comme ça sur le.
Je suis monté sur scène. C'était le dernier concert de la tournée en groupe. Je suis monté sur scène. Salut, ça va. Et bam, j'ai cassé ma dent. Et la dent, je l'ai vu voler, c'est ça qui m'a fait comprendre que j'avais perdu ma dent. Et puis voilà, après je l'ai dit aux gens tout de suite, ça les a fait mourir de rire et c'était une sorte de running gag pendant tout le concert. C'était très bien.
Ça peut être pas mal. Ouais. Juste une chose, la voix que vous avez récupérée après l'opération, elle est différente de la première, j'imagine ?
En fait, j'avais oublié comment était ma voix naturelle parce que ça faisait un an que je traînais ça et du coup je voyais ma voix se dégrader petit à petit au point d'en oublier comment elle était. Moi, je n'en ai pas trop conscience, mais mes amis me disent que oui, effectivement, ma voix a changé.
Oui, il y avait un tweet, j'avais vu, non pas un tweet sur Instagram, c'est Albin de la Simone qui met à un moment donné, mais c'est pas du tout la même voix, c'est style comme si vous aviez changé du tout.
Lui, par contre, ça peut être une blague, il disait peut-être ça pour se moquer de moi, parce qu'il aime bien faire ça.
On va revenir en arrière, alors, parce qu'on va dans une chanson, il y a une chanson qui s'appelle La cour d'école, dans laquelle vous énumérez les portraits des enfants dans une cour d'école, une typologie qui va déterminer ce qu'ils vont devenir par la suite. Donc il y a les branleurs, les fraudeurs, les rebelles, les timides, les losers, les terreurs, les gosses heureux et des tristes. Et vous étiez qui ? Et est-ce que ça a vraiment déterminé l'enfant que vous étiez, ce que vous êtes devenu aujourd'hui ?
Ouais, je pense que moi j'étais aucun de ceux que j'ai cités dans la chanson, mais j'étais plus... Je pense au même titre que Ben, quand il écrit des chansons, c'est qu'on est, on observe ces gens-là peut-être. Et du coup, j'étais plus dans la position de celui, à la fois on m'embêtait pas trop, à la fois j'étais pas vraiment populaire. Et du coup, j'observais ce qui se passait. Et c'est tout ce que ça a changé, c'est que j'ai, du coup, eu l'impression, en tout cas, de capter des fonctionnements et des, je sais pas, des manières de faire dans les cours de récré et de voir aussi l'évolution de ces gens-là. C'est-à-dire, j'ai toujours fait très attention à ce que devenaient ces gens-là, c'est-à-dire ceux qui étaient populaires, ce qu'ils sont devenus.
Et alors?
Mais bizarrement,
du style, vous faites les copains d'après ou je sais pas trop quoi, vous allez voir sur internet ce qu'ils sont devenus.
Non, je suis pas non plus, je fais pas du stalkage de des gens avec qui j'étais au collège, mais je regarde quand même parce que je vois passer de temps en temps des choses et j'ai l'impression que ceux qui finalement se faisaient un peu martyriser au collège sont devenus ceux qui aujourd'hui ont des vies épanouies et tout ça. Je dis pas que ceux qui tapaient sur les autres ont pas une super vie, hein, mais...
Non, mais ça s'inverse. Hein,
mais ça s'inverse.
Ça s'inverse, parce que c'est formateur, je peux vous le dire. Ouais. Ben Mazué, vous?
C'est vrai qu'il fait pas forcément bon être la star du collège. Hein.
Vous étiez la star du collège?
Non.
Vous étiez le branleur, le fraudeur, le timide, le gosse, la terreur, vous étiez quoi?
J'ai pas le souvenir de moments à l'école, enfin dans la cour d'école, vraiment particulièrement épanouissant, mais pas comme toi, pas particulièrement non plus traumatique. C'était une difficulté, mais c'était confrontable, abordable.
Ouais. Moi, j'ai fait du patinage artistique. Je peux vous dire que c'était pas si facile que ça. Vous voyez,
il fait pas bon être différent.
Non, il fait pas bon de faire du patinage artistique à Villard-de-Lans à cette époque-là. On va revenir encore en arrière, mais un peu plus tard, parce qu'il y a eu une vie. Avant Voyou, avant donc cette voix, une vie de bassiste de plusieurs années dans des groupes différents, Éléphance, Pégase et Rome Four Pauline, extrait. C'est pas mal hein, cet album, vous étiez donc bassiste sur cet album. Cette vie de 10 ans de groupe, c'est à peu près 10 ans hein, je crois, c'était bien, vous en gardez de bons souvenirs?
À la fois des souvenirs incroyables et aussi des choses un peu traumatisantes hein, je pense.
Traumatisantes dans quel sens?
Dans le sens où c'est toujours c'est très fort, surtout que j'ai commencé à faire de la tournée quand j'avais 18 ans. Et du coup j'étais extrêmement jeune et je faisais face à beaucoup de choses et notamment je découvrais les rapports de travail avec des amis et ça c'est parfois un peu compliqué. Après ce que j'en garde c'est énormément d'expérience de la scène, du travail, de la répétition, de la recherche à la fois du son parfait et aussi de comment dire du bon mot, de la bonne texture, de toutes ces choses-là, de la bonne mélodie. Et puis on a vécu des moments incroyables ensemble, on a tourné, on a rencontré des artistes qu'on admirait. On a fait plein de concerts, on a fait la fête. C'était génial, c'était très formateur. Je compare souvent ça à des années d'études un peu avant d'avoir fait mon truc à moi. Et j'avais vraiment l'impression de vivre mes années d'étudiant, quoi. Et à la fois avec des musiciens incroyables qui sont devenus après d'autres projets super aussi. Et voilà, c'était des années assez belles. Puis c'est l'adolescence, enfin pas l'adolescence, mais le début de l'âge adulte. Du coup, on a l'impression que tout est possible et c'est assez beau, quoi.
Vous avez eu une vie de groupe, vous aussi, j'imagine, Ben Mazué, au tout début?
Un tout petit peu, ouais. Vraiment très peu. J'ai très vite porté un projet qui portait mon nom. Mais je trouve ça assez équilibrant de faire un peu les deux, parfois. C'est assez agréable de pouvoir avoir un projet qui porte son nom et puis d'être un élément d'un autre. Parce que c'est pas toujours facile de porter un projet qui porte son nom. Je le dis trois fois, là, c'est bien clair.
On a bien compris. Ouais. On a bien compris qu'il y avait eu un problème.
Ouais, de temps en temps. Moi, par exemple, j'écris pas mal pour d'autres et, ouais. Et c'est assez agréable de temps en temps d'avoir juste besoin d'écrire. Toi aussi tu produis, tu fais
ouais,
produis,
bah, voilà. Yale ou Atlas, ouais. François Ndi Atlas Mountain, donc c'est vrai que ça ouvre d'autres perspectives, retrouver d'autres personnes que d'être centré sur soi. L'album avec Rome for Pauline, il avait pas vraiment marché, vous aviez mis beaucoup de temps pour le produire, c'était 3 ans et demi. Vrai. Est-ce que ça vous a fait douter et est-ce que c'est ça en fait, cet échec relatif qui vous a fait basculer pour sortir vous dans la lumière et vous mettre véritablement à chanter, voyou?
Bah, c'était de toute façon, c'était quand même un échec parce qu'on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup aussi de notre amitié dans cet album-là. Donc ça a forcément laissé des traces. Après, je pense que ça m'a aidé à m'émanciper vachement, quoi. Et surtout à prendre confiance et à me dire que de toute façon, on pouvait bosser pendant des années sur un truc, que c'est pas parce qu'on y mettait tout notre cœur et toute notre âme et tout ça et tout notre temps que ça allait marcher. Et que du coup, il fallait juste continuer à faire des choses tout le temps, être en constant mouvement, sinon on s'écroulait, quoi.
Ah oui, quand même.
Mais non, mais c'est en fait, ce moment-là était assez dur parce que, au-delà de perdre un groupe de musique, j'ai perdu certains amis aussi à ce moment-là. Et puis aussi, j'ai perdu mon intermittence, donc je me suis retrouvé dans une galère financière sans nom.
Ah bah ça, je peux imaginer, ouais.
Donc ça a été un moment qui était assez cruel. Et
vous auriez pu raccrocher à ce moment-là?
Je pense que j'aurais pu me dire, je vais faire complètement autre chose, ouais. Mais en même temps, je sais pas, je voyais pas ça non plus comme un échec, je voyais juste ça comme une étape un peu douloureuse à passer, et puis surtout comme un vrai process, enfin c'était aussi un message qui me disait, ok maintenant c'est bon, tu peux passer à autre chose. J'aurais abandonné si j'avais vu que Voyou ça marchait pas juste après, je pense.
Voyou, vous restez avec nous, on va gagner le paradis tout à l'heure avec Ben Mazué, on va retrouver Marion Guilbeault dans un instant, mais tout de suite, vous avez une mission, vous êtes programmateur, vous avez choisi dans la playlist de France Inter, François Ndi Atlas Mountain.
Oui.
On s'en doutait un peu. Il y avait Yael, on s'est dit bon, il va choisir Yael, et vous l'avez choisi parce que vous avez travaillé avec elle. Et François Ndi Atlas Mountain, vous avez aussi travaillé avec lui. Pour quelle raison vous avez choisi ce titre?
Bah alors déjà, j'ai pas travaillé sur ce titre, ni sur l'album qui va avec. Ouais. Et ben je l'ai choisi tout simplement parce que j'aime ce morceau. C'est-à-dire au-delà de mon amitié pour cet homme, et ben je trouve qu'il est extrêmement talentueux. Et il y a un truc qui me parle beaucoup dans ce morceau. La distance qui s'est créée avec une personne pour qui il était tout juste avant, et l'absurdité de cette chose, l'absurdité de passer de cette personne est tout pour moi à c'est un inconnu ou c'est une inconnue au moment d'une rupture, quoi. Et du coup, je sais pas, ce morceau me touche beaucoup, j'aime comment c'est fait, j'aime sa musicalité, et voilà tout ça, quoi, les arrangements.
Le morceau parle de rupture, il est fait aussi pour vous, Ben Mazué. Oui. Coucou de François Ndi Atlas Mountain.
Texte désormais. Coucou. qu'elle m'avait jamais vu nu, comme si j'étais un inconnu. Coucou, 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 comment vas-tu? Pourquoi elle écrit ce genre de truc, comme si elle m'avait jamais vu nu? Encore un été, j'attends. Bien moins impliqué. J'suis sans nouvelles, j'suis sous un arbre, je réponds ah ouais. Même ça s'est cassé, c'est l'ipse éclipsé qu'ai-je imaginé. Celle qui disait bonsoir mon amour, koala en chérie, faisons un tour, texte désormais. Elle demande puisque je peux plus lâcher ma dose dans son. Coucou, 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 comment vas-tu? Comme si j'étais un inconnu, comme si elle m'avait jamais vu nu. Je jetterai sa brosse à dents.
Côté club.
Sur France Inter.
Coucou Marion. Comment
coucou
vas-tu
Laurent, bah écoutez,
c'est dans la
moi
chanson.
Ça va, moi ça va. On va rester dans une humeur un peu mineure hein, avec Kabadzi et leur nouveau single. Alors c'est pas vraiment des inconnus sur cette antenne, sauf si vous êtes dans une grotte entre 17h et 18h, car Kabadzi ça sonne comme ça.
Je te promets, je passe en voile tout. Je te promets, je boucherai les parois tout autour.
Oui, le générique addictif de Par Jupiter, c'est eux, mais Kabadzi, c'est aussi et c'est surtout un projet artistique atypique. À l'origine, c'était 5 personnes, une compagnie de nouveaux cirques. Aujourd'hui, c'est un binôme, 3 albums, dont le dernier en collaboration avec le cinéaste Bertrand Blier. Les dialogues des films de celui-ci se transformant en punchline dans leur rap en mode mineur. Et ce soir, nous sommes en ligne avec Lulu, la voix de Kabadzi. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous entendez bien, Lulu?
Très bien.
Vous êtes où, chez vous?
Je suis chez moi, voilà, dans la campagne nantaise.
D'accord. Quelle pièce de la maison?
Plutôt la cuisine.
Plutôt la cuisine. Ah, hein. Décidément, ça, c'est là que tout se passe.
Tout hein. Se passe tout le temps.
Ouais, ouais. Vous vous connaissez avec Ben Mazuet et Voyou? Vous avez déjà partagé?
On s'est déjà croisé, oui. Avec Voyou, on se connaît depuis longtemps. Et Ben Mazuet, on s'est déjà croisé en concert, ouais.
Ouais, vous confirmez, Ben?
Absolument, je confirme. On en parlait un peu tout à l'heure.
Alors Lulu, je l'évoquais tout à l'heure, vous êtes créateur d'un rap plutôt sombre, à l'humour grinçant, un rap épuré, à l'écoute de nos règlements, de nos dérèglements intimes comme sociétaux. Et je me disais que la période qu'on vit actuellement, elle doit être assez inspirante pour vous.
Bah, inspirante, c'est pas trop le mot, c'est quand même un peu triste. Et on aimerait passer à l'avenir et au futur assez vite. Mais c'est pour ça qu'on s'est dit qu'un morceau comme Mélanco, ça pouvait être le bon moment de le sortir.
Et à propos de Mélanco, justement, cette chanson, elle a été écrite avant ou pendant le confinement?
Elle a été écrite un peu avant. Juste un peu avant. C'est une chanson d'hiver quand même, ou d'automne. Mais peut-être qu'on sentait le confinement arriver, je sais pas. Mais elle a été écrite avant.
Comme tout le reste de l'album?
Quasi tout le reste de l'album, ouais. Ouais, il devait sortir à peu près au début du premier confinement, on va dire.
D'accord. Ah oui, ça a été complètement repoussé, donc. Hein, parce que là, ça sortira le 5 février 2021. Un mot sur le titre de l'album, Burrus. C'est un psychologue, un penseur américain, qui a travaillé notamment sur le behaviorisme. Comment vous êtes intéressé à cet homme et à son travail?
C'est en s'intéressant plutôt aux réseaux sociaux, au final, qu'on est tombé sur Burrus Frederick Skinner, ouais. qui a bossé à partir des années 30 sur le phénomène de la récompense aléatoire. et puis du biais comportemental qui allait avec, où au final une addiction pouvait naître très très facilement à partir du moment où où on savait pas exactement si on allait obtenir une récompense face à une action, quoi. Et à partir de ça, bah, ça nous a emmené dans les méandres de l'analyse des réseaux sociaux et de comment on les vit aujourd'hui, et on a décidé d'en faire un disque.
Et quel rapport vous entretenez-vous justement avec ces réseaux sociaux qui semblent quand même indispensables aujourd'hui à une carrière artistique ?
Ben c'est ça, c'est un rapport super compliqué parce qu'évidemment on l'utilise tous les jours, on en a besoin tout le temps pour parler de nous ce qu'on fait. Donc on en est autant victimes que acteurs principaux et tout. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on avait envie de parler de ça et de trouver les mots qui allaient là-dessus, parce que c'est à la fois un outil de puissance et à la fois un outil qui rend triste. Et c'est une sorte de balancier perpétuel que tout le monde vit, je pense. On n'a pas besoin d'être artiste pour le ressentir, mais il y a une sorte de voyage perpétuel entre la déception et la récompense, quoi.
Vous ressentez ça aussi, Ben Mazoué, Voyou, par rapport aux réseaux sociaux?
Ouais, c'est très vrai.
Cette ambivalence.
Mais il y a un documentaire comme ça, Derrière les écrans de fumée, où il parle un petit peu aussi de ça, de cette manière-là de récompense là dont tu parles. Ouais. C'est très vrai, ouais, je ressens complètement ça moi aussi, ouais, bien sûr.
Voyou ? Oui, aussi, ouais. Bah, c'est à la fois, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, mes partenaires me disent que je suis obligé de le faire. Je leur ai demandé plusieurs fois d'arrêter.
Ah oui, carrément.
Ouais, parce que j'ai l'impression d'y perdre beaucoup de temps. Et à la fois, je comprends ce qu'ils me disent, c'est que. En tout cas, pour l'instant, si je veux faire en sorte que des médias écrivent des choses sur moi ou que des gens aient accès à mon travail,
vous devez en passer
par là. Il faut que j'utilise, ouais. Quoi. Donc, je me sens presque prisonnier de ce truc-là. Et à la fois, je suis comme tout le monde, hein, je passe beaucoup de temps sur mon téléphone et j'ai beau le décrier.
C'est votre meilleur ami.
Non, je dirais pas ça.
Kabadzi, vous avez également toujours soigné la mise en scène de vos concerts, de vos albums, de vos clips. Là aussi, avec Burrus, il y a tout un concept. C'est presque une marque. Vous avez imaginé même des slogans, paraît-il.
Ouais, c'est ça. Bon, on a eu envie de prendre le contre-pied un peu ludique de l'affaire en montant une sorte de fausse worldwide company qui s'appellerait Burrus, ouais. Et qui serait capable de tout pour la vie de tout le monde, un sorte de Google Empire. Et on avait envie aussi de donner un côté un peu souriant et sarcastique à ça. Et donc c'est ce qu'on développe dans nos clips. On s'est lancé dans une série de clips. Un peu en mode Black Mirror, et le premier est sorti il y a une semaine là, et donc vu qu'on aime travailler les créations audiovisuelles de genre un peu en mode court métrage, bah on s'est dit que c'était l'occasion avec cet album et ce thème, quoi.
Merci beaucoup Kabadzi, à très vite hein, dans la vie réelle. Mélanco, c'est tout de suite dans Côté Club.
C'est parce que vous êtes chiant que je m'invente une vie. Je m'ennuie avec les gens trop beaux, je t'ai dit. Apparemment, tu m'as fait mal à vie. Né chez le redneck, j'ai qu'un ami. Mélancolie, mélancolie. Mélancolie, mélancolie. Je n'ai plus la gaule, les jours de fête, j'ai trop de pardon dans mon programme. J'aurais dû naître déterminé, tant l'autre joue trop pour mon âme. Sa mère, timidité. On donne médaille que quand t'aboies, je saurai jamais où je finirai. C'est sur la vie, a plus d'imagination que moi. Rétroviseur comme maladie, faudrait que j'arrête la nostalgie. Mélancolie, mélancolie. J'ai un problème avec la norme comme un connard. Bosser tout le temps pour espérer. Maison de banlieue et la bagnole garée devant. Mélancolie, mélancolie. C'est parce que vous êtes chiant que je m'invente une vie. Je m'ennuie avec les gens trop beaux, je t'ai dit. Mélancolie, mélancolie. Apparemment, tu m'as fait mal à vie. J'ai l'air annexe, j'ai qu'un ami. Mélancolie, 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 mélancolie. Mélancolie, mélancolie. Y'a plus personne dans toutes nos têtes, on nous prévient depuis 50 ans. Tu tombes dedans, c'était trop bête pour la planète. Ça ira mieux le jour où t'arrêteras de vouloir vivre dans une pub. Oui, c'est tentant, c'est leur travail. On se parle mal, on se regarde mal. Comment ça tient? Comment ça marche, ça tourne en rond, mais c'est pour quand le vrai pétage de plomb. Mélancolie, mélancolie, jamais le passé ne fait crédit. Je veux plus entendre au bon vieux temps, vas-y, dis-le si c'était mieux avant, vas-y, saute maintenant. Mélancolie, mélancolie, c'est parce que vous êtes chiant que je m'invente une vie. Je m'ennuie avec les gens trop beaux, je t'ai. Mélancolie, mélancolie, apparemment tu m'as.
Mélanco, c'est le nouveau son de Kabadzi. C'est aussi une magnifique vidéo, comme toujours avec eux. Et c'est pour patienter jusqu'à l'album Burus, annoncé pour le 5 février 2021.
Côté club, pour écouter chez moi, dans un club.
Sur France Inter.
Allez, tout de suite, rendez-vous au paradis, comme dirait Alain Chamfort. Mais Paradis, c'est votre quatrième album, Ben Mazuet, un album écrit à La Réunion. Vous avez un lien particulier avec cette île ?
Pas particulièrement, non. J'y suis allé quelques fois. J'y suis allé un peu pour faire mes études.
De médecine ?
De médecine, ouais. Voilà. Et la première fois que j'ai posé les pieds là-bas, j'ai ressenti quelque chose d'assez fort. Je trouve qu'il y a des endroits comme ça qui, lorsque vous les découvrez, vous donnent envie d'y mener une existence entière. Et ça fait partie de ces endroits-là.
Ouais. Vous y êtes allé donc avec femmes et enfants, femmes et enfants, comme ouais. Vous avez plusieurs, ouais, mais... femmes et enfants, donc pendant un an et demi, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, exactement.
Ouais. Vous êtes installé là-bas.
Je voulais vraiment vivre ça. J'avais envie de ça. Et...
Alors un album paradoxal parce qu'il est écrit à La Réunion, mais ça commence par une rupture, c'est le premier titre, Tu m'auras tellement plu.
Est-ce que j'arrive, est-ce que j'arriverai pas à écrire ce que nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes les ruines du plus beau combat. Les restes d'un amour énorme, les restes d'un amour énorme. Est-ce que j'arrive, est-ce que j'arriverai pas. Y a des chagrins qui te choquent, te sonnent, te choquent, te sonnent. La folie rôde autour de ces émois. Sur les restes des amours énormes, c'est fini. Sur les restes des amours énormes, c'est fini. C'est fini sans vainqueur, sans vaincu. Sauf le cœur et le cul et les nerfs qui accusent le coup. Dans la guerre a duré, dans la guerre a duré. Et le début de la fin, c'était il y a des années. On s'est bagarré, c'est bien maintenant, faut laisser aller. C'est foutu, c'est fini. On a perdu, j'ai compris. On se sera bien battu. Tu m'auras tellement plu, on aura tellement ri. C'est foutu, c'est fini. On a perdu, j'ai compris, ce sera bien battu.
Superbe chanson qui ouvre l'album, et quand on ouvre l'album par une chanson de rupture, eh bien ça donne une clé de lecture sur ce qui va vous animer, évoquer la vie privée, ne pas faire l'économie de sa vie. La rupture d'ailleurs revient dans une autre chanson qui s'appelle Nulle part, un peu plus loin dans l'album. Je pense aussi au trajet qu'il a fallu avoir, parce que dans l'album précédent, en 2017, vous étiez amoureux et vous chantiez la femme idéale. Donc l'album sera intime, vous parlez de vos enfants, du quotidien, vendredi sur deux, etc., etc. Mais surtout, moi ce qui m'a intrigué et passionné, c'est dans ce morceau, quand vous commencez avec les chœurs. Ah. Ben Mazuet, j'ai trouvé ça vraiment super comme idée.
Ah bah merci. En fait, j'ai écrit cette chanson en marchant, c'est-à-dire vraiment avec ma voix, sans instrument. Vraiment, je cherchais d'abord la mélodie et le texte est venu avec la mélodie tout en marchant. Et du coup, je voulais un peu une orchestration qui puisse marcher en marchant. C'est donc les chœurs. Enfin, ça peut être étrange comme formulation, mais
non, mais vite. Ouais.
Voilà, l'idée de chanson de marche avec une chorale qui puisse marcher avec moi et porter les mots importants très très fort pour qu'ils arrivent très très fort. Il n'y a pas beaucoup d'instruments d'ailleurs au début. Il y a
non,
ce piano
peu.
Qui fait juste
exactement.
Trois notes. Voilà.
Ah oui, donc c'est-à-dire, ah, ça y est, je comprends. C'est-à-dire que quand vous écrivez en fredonnant, en fait, il faut retrouver ensuite dans la réalisation de l'album quelque chose qui donnerait l'indice de la construction même ou de l'apparition de cette chanson.
C'est ça. Et j'avais tout de suite juste cette vision des mots très appuyés par des gros chœurs très forts.
Eh bien, Ben Mazuet, on va s'écouter un titre « Quand je marche », puisque justement, il est question de cette écriture. On a choisi, nous, la version live. Oui, du live. C'est la version que vous aviez donnée ici, dans Côté Club, le 23 septembre dernier. Et les auditeurs peuvent même regarder la vidéo tournée dans le studio. Elle est disponible sur notre chaîne YouTube. Elle avait fait un carton à l'époque.
Oula, faut que j'envoie ces lettres. Faut que je rappelle mon père d'abord. Faut que je prévoie cette fête. J'ai promis de faire pour le disque d'or. Faut que je pense à l'été. Trouver des colos pour les gamins. Demander quand est-ce que je les ai. Et puis pour qu'ils voient leurs cousins. Faut que je sache ce que mes sœurs ont prévu. Elles vont me dire qu'elles me l'ont déjà dit. Je vais répondre oui mais que je sais plus. Puis faudra que je pense à samedi. J'aimerais les emmener à la mer. Loin de ces humeurs grisâtres. Et dimanche on ira voir mon père. On regardera le match tous les quatre. C'est pour ça faut que je l'appelle d'abord lui. Et cette fille à qui j'avais promis. Déjà il y a 5 jours que demain. Je la contacterai c'est certain. Et que je lui donnerai mon avis sur ce truc là qu'elle a sorti. Un podcast sur les interdits que j'ai trouvé d'ailleurs très bien. Et puis faut que je poste un beau contenu, je sais pas, un truc nouveau. Et vu le temps que je passe dessus, beaucoup trop peu pour que ce soit beau. Ça va être nul et le pire c'est que je vais réussir à trouver un autre que moi à qui en vouloir pour ça. Stop, ça y est, j'arrête de penser. Je vais courir, je vais marcher. J'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, allez, j'arrête.
j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, ça y est, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire, je vais me relever. À côté de ça, il y a le silence de mes amis, à qui j'ai renoncé par amour, et qui me rappellent qu'aujourd'hui, je n'ai plus ni elle, ni le temps pour, ne serait-ce que les reconquérir. Et puis, plus on vieillit, moins on comprend les gens qui nous entourent. Plus on vieillit, moins on comprend, tout court. Alors, il y a l'amour des enfants, avec ça, tu manques plus de rien. Moi, je les aime tellement, justement, j'ai tout le temps peur de pas faire bien. Faut dire qu'on parle des blessures faites par le regard d'un père. La moitié des gens malheureux sur cette terre le sont de cette manière. À quoi sert vraiment l'exigence ? Pourquoi on souhaite être excellent ? Quand on voit dans quelle déshérence se retrouvent les génies souvent. Moi j'aimerais leur apprendre à être heureux avant d'être brillant. J'aimerais leur apprendre à être heureux souvent, souvent. Mais ce que je veux pour eux, ce que je veux, c'est bien moins important que ce que je suis. Les gamins, c'est faites ce que je fais, pas faites ce que je veux, encore moins faites ce que je dis. Dans ce cas-là, tant mieux pour la musique, tant mieux pour l'énergie, tant mieux pour les envies. Et pour le reste, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, ça y est, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, allez, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, ça y est, j'arrête de penser. J'apprends quand je marche, parce que je pense quand je marche, parce que j'avance quand je marche, parce que je rêve quand je marche.
Quand je marche, Ben Mazué, c'est un titre de ce nouvel album. Et quand on lit le livret, c'est toujours passionnant de lire les livrets, parce qu'en plus vous l'avez bien travaillé. Vous écrivez en préambule, juste avant la chanson, un petit texte, comme si on était en concert en fait, et que dans les concerts, on se met à parler entre les chansons pour les présenter. Et dans cette présentation de cette chanson, vous dites que pendant un an ou deux ans, c'est ça, vous vous êtes levé systématiquement tous les jours à l'aube, vous preniez votre voiture, donc vous quittiez la femme de votre vie dans son lit, vous quittiez vos enfants, vous quittiez donc la maison pour aller marcher, donc très loin, et vous vous demandiez pour quelle raison vous le faisiez. Est-ce que vous avez compris maintenant ce qui vous poussait pendant ce temps-là à aller marcher à l'aube?
Bah, y avait un problème de couple, hein, clairement.
Ah d'accord, ouais, c'est ça.
Ça. C'est sûr qu'on se lève pas à 4h du matin, tous les matins, quand tout va bien, quand tout va bien en amour, ou tout au début d'une histoire d'amour. Il y a quelque chose, effectivement, de cet ordre-là, et d'ailleurs, je pense que si j'étais... Si j'étais thérapeute de couple, je sponsoriserais genre le marathon du Mont Blanc ou ce genre de truc, parce que franchement, honnêtement,
la diagonale des fous.
Ah ouais, c'est ça. Je pense que quand je vois un mec qui fait du trail, d'abord j'ai envie de le prendre dans mes bras et lui demander ce qui va pas avec sa meuf.
Je suis assez d'accord.
Ouais. Et en même temps, c'est à ce moment-là que s'est écrit l'album. Hein, ou pas.
Ah oui, donc
ouais, c'est ça.
Pas. C'est tout à l'heure quand on entendait Cavadi qui disait que c'était que la souffrance c'était pas inspirant. Moi la souffrance ça m'inspire beaucoup, au contraire j'ai souvent envie d'écrire sur la souffrance, que j'ai envie de l'expliquer, j'ai l'impression qu'en l'expliquant je vais l'éteindre plus que le bonheur, parce que pas très envie d'éteindre le bonheur, du coup j'ai beaucoup moins envie d'expliquer le bonheur.
Et pour autant le bonheur il était dans l'album précédent.
Oui,
il y avait d'autres choses aussi. Il y avait aussi le deuil de votre mère. Il y avait pas
mal
de choses.
Et puis après on peut parler de souffrance tout en étant optimiste. C'est un petit peu mon créneau. Enfin, en tout cas, mon projet, c'est d'essayer d'avoir un versant quand même un peu enthousiaste et positif autour de
Alors,
tout ça.
Je reviens sur cette chanson Quand je marche, parce qu'il y a un sujet qui revient dans cette chanson et qui revient aussi dans l'album. Je lis quelques phrases. Faut que j'envoie ces lettres, faut que je rappelle d'abord mon père. Et un peu plus loin, faut dire qu'on parle des blessures faites par le regard d'un père, la moitié des gens malheureux sur cette terre le sont de cette manière. Et vous enchaînez ensuite sur vos craintes de mal faire en tant que père. Moi, je me suis demandé, sans être vraiment, sans jouer au psychanalyste de bazar ou quoi que ce soit, qu'est-ce que vous devez à votre père pour qu'il soit aussi présent dans cette chanson et vous-même par rapport à vos enfants, cette position?
J'ai jamais trop réfléchi exactement à ce que je dois à mon père. C'est ça votre question, qu'est-ce que je lui dois? En tout cas, c'est sûr qu'une forme de poésie. parce que il écrit beaucoup et il écrit et on correspond, on a une relation qui est très épistolaire, et à travers cette relation, je pense que ça est né mon envie d'écrire, mon amour de l'écriture, mon inspiration. C'est vrai que c'est les premières fois que j'étais très ému par le fait de lire, c'était en lisant mon père. Donc ça joue. Et puis ensuite, bah, parce que je crois que je me confère un rôle très responsable vis-à-vis du devenir de mes enfants, qui est bien au-delà de la réalité, parce qu'ils grandiront avec bien d'autres figures parentales et d'autres blessures que celles que je vais bien vouloir leur infliger, ou même les encouragements que je vais pouvoir leur donner.
Vos enfants reviennent dans les chansons, la vie avec eux. Votre fils s'appelle Mathis ?
Non.
Non, c'est de l'autofiction à ce moment-là.
Ouais, voilà,
d'accord, ok. Parce qu'il y a une chanson qui s'appelle Mathis, ouais, qui parle d'un fils. Bon, disons, on va dire ça. Les enfants occupent une place centrale, notamment dans cette chanson, Quarantaine.
J'ai changé de tranche, fini les 20-30. J'ai l'âge des génères, cadre quinquagénaire. Y'a pas de 30 à génère, je sais pas pourquoi. Tu vois cet âge, ce que ça génère. Au fond de moi, pas grand-chose. À part que je sors moi au club, je me sens pas bien quand j'y vais, qu'il y a des expressions de jeunes que je ferais bien de pas choper. Mes meilleures soirées, c'est souvent celle où je bosse. Et mes meilleurs amis maintenant, je crois que c'est mes deux gosses. Maintenant, je sais, se changer, c'est peine perdue. À l'âge que j'ai, quarantaine, bienvenue.
Il y a une phrase qui nous a fait frémir, je regarde encore mon réalisateur, il éclate de rire, c'est ça. Mes meilleurs amis à ce moment-là, ce sont mes deux gosses.
Ouais.
Vous en êtes quand même pas là, Ben Mazuet.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a des fois. Non, mais honnêtement, il y a des soirs où il y a des vendredis où je sais que je vais les retrouver, où je me dis, ah, ce soir, je vais dîner avec mes garçons, ça va être génial.
Ah, bah ça, c'est normal, ouais.
Déjà parce qu'ils sont très bon public avec mon humour.
Ah.
Alors, ça me fait très plaisir de les faire rire. Et parce que voilà, ils arrivent dans un âge où on commence à vraiment pouvoir partager plein de choses, et c'est hyper agréable, vraiment, c'est des moments exceptionnels.
Vous avez des goûts musicaux communs, vous leur faites écouter des choses, ils vous font écouter
Ouais, ils me font écouter des trucs, je leur fais écouter des trucs, ouais, ça commence carrément. Alors eux, ils ont leur musique de l'école quand même, beaucoup.
Ouais.
Donc je me renseigne, du coup c'est intéressant.
Ouais.
C'est beaucoup en ce moment, c'est une chanson de Dadju avec Soul King qui s'appelle Mélégime, qui est vraiment le gros carton à la maison. Et c'est un grand plaisir d'aller voir danser là-dessus. Et puis sinon, moi j'essaye de leur faire écouter ce que moi j'écoute, et ils font leur marché. Il y a des trucs qu'ils aiment bien.
Et vous écoutez quoi pour leur proposer?
Eh ben alors vraiment c'est très large, j'essaye vraiment tout.
Ouais, parce que vous écoutez beaucoup de choses, vous allez sur Instagram, vous avez repéré même des chanteuses qui sont dans l'album, que vous avez repéré comme ça un peu par hasard en effet, vous êtes très très à l'écoute.
On essaye. Après moi j'aime bien, je leur fais beaucoup écouter Renaud, je dois dire, parce que j'ai quand même un truc avec ce chanteur que j'aime beaucoup, donc et puis eux ils aiment bien aussi, donc ça.
Vous êtes allé à l'exposition? Non, vous avez
mais
pas
non
eu le temps.
J'ai pas eu le temps. Ouais.
Elle sera prolongée.
Elle va être prolongée, ouais. Ouais, j'espère. Et j'en ai un qui est très très fan de Nekfeu, donc c'est intéressant parce qu'il a 8 ans, c'est quand même super petit.
Ouais.
Et il chante par cœur les morceaux, c'est assez mignon, je veux dire.
Vous aurez 40 ans en janvier, c'est ça?
Oui.
Être un chanteur de 40 ans avec 4 albums, c'est facile?
J'ai l'impression d'être arrivé tellement tard, moi, dans ce secteur, au contraire de toi, voyou. Moi, je suis arrivé vraiment à la fin, au début de ma trentaine, donc j'ai plutôt l'impression d'être un peu au début. Je me sens pas arrivé à la fin, mais c'est vrai que chanteur, c'est un secteur où ça s'arrête assez tôt, quoi. Enfin, c'est rare les chanteurs de 80 ans, à part effectivement Henri Salvador, qui a fait un album incroyable à 80 ans.
Ou Brigitte Fontaine.
Oh,
il y en avait plein, Charles Aznavour.
Oui, c'est vrai, mais enfin, globalement.
Mais on est dans une autre époque.
Oui, c'est ça. Et puis, souvent, ils chantent quand même leur grand tube de l'époque. Mais si on veut faire une carrière pour exploser à 80 ans, on veut mettre Architecte, par exemple. Parce que Pei, par exemple, il avait 80 ans quand il a fait la pyramide. Donc, soit sa grande œuvre, il l'a faite à 80 ans. C'est beaucoup plus rare chez les chanteurs, quand même.
Ouais, parce que vous étiez médecin auparavant.
Voilà, ouais, j'ai eu cette période-là de formation, et qui c'est marrant parce que je la vois un peu aussi comme une formation pour arriver à cette aventure-là qui est l'aventure artistique.
Ah oui, d'accord. Vous, tout à l'heure, c'était la vie de groupe qui vous a permis d'arriver donc à devenir voyou, et vous, c'est le médecin qui vous a permis de devenir Ben Mazuet, le chanteur.
C'est sûr que c'est une partie, ouais, de ma vie qui m'a permis de comprendre ce que je voulais, d'abord de côtoyer des gens dont c'était la vocation complètement. C'est quand même tentant de se dire, bah moi aussi, je veux faire exactement ce que j'aime comme toi, ophtalmologue. Et puis par ailleurs, le fait de rencontrer l'hôpital, c'est quand même le fond de l'entonnoir social. On rencontre tout le monde et on côtoie tout le monde. On comprend, on doit comprendre tout le monde. Et je pense que ça, c'est super, une bonne formation pour après écrire des chansons. Ouais.
En fait, quand on regarde l'album, c'est un peu ça, en fait. Quand on écoute l'album, c'est vraiment la chronique de la vie quotidienne d'un père célibataire. On y suit vos aventures de titre en titre. Quelque chose de pas mal cinéma français, en fait. Et je me suis dit, il pourrait y avoir une troisième vie où il y aurait eu médecin, chanteur, et puis on continuerait, chanteur et réalisateur ou du domaine du cinéma.
Ouais, je sais carrément. Ouais, moi, je trouve que d'avoir des rêves, c'est et des envies, c'est essentiel. Surtout, je pense que le plus essentiel, c'est de prendre conscience quand on n'est pas bon, de dire bon bah là, par contre, non, je vais peut-être m'arrêter, mais en tout cas de le tenter, ça vaut le coup. Ouais. Donc le tenter, pourquoi pas, oui.
Bah, ce sera le mot de la fin. Merci à vous deux.
Merci beaucoup.
C'était la fin de Côté Club. Merci Voyou. Nouvelle EP des Confettis en désordre et pas dans le désordre, comme j'ai pu dire pendant toute l'émission. Les dates, est-ce que les dates sont annulées ou pas en décembre ou on ne sait pas encore?
C'est un peu flou.
C'est un peu flou. Alors, ouais. Le 3 décembre à Laval, le 4 à Ressorangis et le 5 décembre à Clermont-Ferrand. On croise les doigts pour vous. Ben Mazué, nouvel album Paradis. Et la tournée, ce sera pour 2021. Donc, à ce moment-là, on peut voir quelque chose peut s'arranger. Marion ?
Kabadzi, l'album sort le 5 février 2021, il s'appelle Burus.
On est déjà en 2021. Côté Club, c'est Stéphane Le Guenec à la réalisation, Florent Laliani à la technique, Alexis Goyer, Marion Guilbault, Virginie Rouzic pour la programmation avec la collaboration active de Marc Gauthier, Muriel Pérez pour les playlists. Demain, Côté Club, c'est Freda, elle est bipolaire. Non, elle est bisolaire.
Bisolaire, la
Et un marathonien de la trompette, Ibrahim Malouf, qui publie 40 mélodies. Et Marion, demain pour vous.
On retourne dans les salles de concert, les toutes petites, celles qui défrichent et celles où l'on transpire.
Allez, Côté Club, on ferme. À demain.